C'est l'occasion pour nous, eh bien, ce matin, de poursuivre. On arrive vers la fin du livre de l'Ecclésiaste et je vous invite à prendre vos Bibles, que nous puissions lire ensemble Ecclésiaste chapitre 11. Donc les 8 premiers versets, Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 8. Et si vous utilisez les Bibles qui sont devant vous, c'est la page 440. Voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Vous connaissez les tests que l'on fait pour connaître un peu son profil. Vous avez peut-être déjà essayé ce genre de test où on répond à des questions et puis il s'agit à la fin de découvrir le résultat et de se dire, voilà, quel est notre profil type, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est dominant. Et je vous propose de faire quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai deux questions à vous poser. Enfin, ce n'est pas exactement des questions, mais plutôt des affirmations. Et je vais vous demander d'y réfléchir. Premièrement, en général, donc je dis bien en général, j'enlève toutes les exceptions. Donc en général, premièrement, grand A, j'aime prendre des risques. Je suis une personne, j'aime prendre des risques. Pas de souci avec ça. B, je préfère réfléchir et s'il faut prendre un risque, je le prendrai. Est-ce que je suis ce type de personne? Et puis C, j'évite à tout prix de prendre des risques, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi? Est-ce que, à main levée, je peux juste savoir où vous vous situez? De toute façon, c'est moi qui vous regarde. Qui est plutôt de type A? Bien. De type B? Une grande majorité. Type C? Il y en a aussi. Bah oui. Deuxièmement, en général, toujours en général, je prends une décision sans consulter Dieu. Deuxièmement, je consulte Dieu, puis je prends une décision dans la foulée. Et puis, une petite nuance avec la dernière réponse, je m'assure d'avoir bien compris la volonté de Dieu, sinon je ne prends pas de décision. Vous voyez un petit peu la différence entre la deuxième et la troisième réponse. La deuxième réponse, je consulte Dieu, mais je prends ensuite une décision. Et la réponse 3, c'est plutôt, je veux vraiment m'assurer que j'ai bien compris la volonté de Dieu avant de m'embarquer dans quelque projet que ce soit. Si vous avez bien fait votre choix, qui est plutôt du type A? En toute honnêteté, oui, je prends une décision sans consulter Dieu. En général, hein. Qui est plutôt B? Ok, c'est pas la majorité non plus. Qui est plutôt C? Ok. Selon la réponse que vous avez donnée, le texte d'aujourd'hui peut vous parler différemment. Comme nous l'avons vu les semaines précédentes, l'Ecclésiaste, qu'on appelle le Kohélète, et souvent moi je vais plus me référer au fait de l'appeler le Kohélète en hébreu, eh bien, nous donne depuis le chapitre 7 de son livre des conseils de sagesse pour vivre au mieux notre condition humaine. marqué par la fragilité, marqué par la futilité, marqué par diverses frustrations. L'être humain n'est pas maître des circonstances de sa vie. C'est Dieu qui a la maîtrise de tout. Et pour tous, la vie est faite de bons comme de mauvais jours. Pour tous, sans exception, croyants ou non-croyants. Personne, aucun être humain n'échappe à cette condition. Ni le sage, ni le fou. Ni à l'époque du Qohélète, ni à notre époque. Et au chapitre 9, nous avions rencontré cette exhortation. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. » Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Cependant, sur notre passage, sur notre chemin, se dressent parfois des obstacles. Les circonstances ne sont pas toujours favorables. Les imprévus nous surprennent. Les ennuis sont inévitables. Alors que faut-il faire? On dirait que dans notre texte, le Qohélète répond aux indécis. En effet, dans la vie, nous ne pouvons pas toujours attendre que toutes les conditions soient réunies pour passer à l'action, pour commencer un projet, pour démarrer une activité. Nous ne pouvons pas attendre que toutes les conditions idéales puissent être réunies pour démarrer quelque chose. Le Qohélète nous appelle ce matin, ici, dans ce texte, à entreprendre, sans même être certain du résultat. Il nous faut accepter le fait de ne pas avoir toutes les données en main, et parfois nous ne savons tout simplement pas quelle est la volonté de Dieu. Je tire comme enseignement de ce texte que nous venons de lire que Dieu ne veut pas que nous soyons d'éternels indécis. Il faut parfois essayer et s'y prendre à plusieurs fois. Et je donnerai tout à l'heure des exemples. Et si nous regardons de près notre texte, le Qohélète semble mettre l'emphase, l'accent sur trois éléments. D'abord, il nous encourage à l'action. Ensuite, il insiste plusieurs fois sur notre ignorance naturelle, en particulier en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pas tout de ce que Dieu fait. Et enfin, comme dans d'autres passages dans le livre, eh bien, le Qohélète nous dit la part qui revient à l'homme, celle de se réjouir pendant cette vie, malgré les jours sombres. Et je vais revenir donc sur chacun de ces éléments sur lesquels, il me semble, le Qohélète met l'accent. Premièrement, d'abord, sur cet appel à entreprendre, à se lancer et à donner même, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous avez remarqué que le chapitre 11 démarre avec des impératifs. « Jette ton pain à la surface de l'eau. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes. » Et il faut bien avouer, quand on lit le premier verset, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. » c'est un peu énigmatique quand même. Qu'est-ce que ça veut dire « jeter son pain à la surface de l'eau » ? Alors, si les commentateurs s'accordent pour ne pas comprendre ce verset littéralement, comme s'il fallait jeter du pain, par exemple, dans la Marne, eh bien, pour certains, cette expression évoque la générosité. C'est le fait de donner sans attendre en retour. Finalement, jeter son pain et se dire, peut-être que je ne le retrouverai pas. Donc, cette expression désignerait la générosité. Ce qui irait bien avec l'idée du verset 2. Et puis pour d'autres, ce verset 1 veut dire qu'il faut faire plusieurs tentatives dans l'espoir que quelque chose fonctionne, précisément avec le temps. Avec le temps, ce pain que tu as jeté à l'eau, tu le retrouveras. Il faut peut-être s'y prendre à plusieurs reprises, mais au bout du compte, quelque chose fonctionnera. Peut-être. Mais je voudrais m'attarder sur le verset 2. Qui, dans notre traduction, est compris comme un appel à la générosité. En étant généreux, nous pouvons espérer qu'au jour du malheur, nous recevrons aussi de l'aide à notre tour. En étant généreux à l'égard des autres, nous pouvons espérer que, parce que nous avons été généreux avec les autres, eh bien, au jour du malheur, nous serons aussi aidés à notre tour. C'est en tout cas une manière de comprendre ce verset. Et ce qui doit nous interroger, c'est que faisons-nous avec ce que Dieu nous donne ? Avec nos biens, avec notre argent. Sommes-nous généreux ? À plusieurs endroits de la Bible, nous trouvons un encouragement à la générosité. Et j'aimerais vous faire part de quelques versets qui vont dans ce sens. Proverbes chapitre 11, verset 24. « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. » Paradoxe. « Et l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Proverbes chapitre 19, verset 17. « Celui qui accorde une faveur aux pauvres, » peut-être particulièrement en lui donnant de l'argent, « celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Savez-vous que lorsque nous aidons des plus pauvres que nous, nous prêtons à l'Éternel ? Luc chapitre 12, verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. » 1 Timothée chapitre 6, versets 18 à 19, Paul s'adresse aux riches, aux croyants qui sont riches, ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Et enfin, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7, Paul qui pense à la collecte qu'il est en train d'organiser en faveur des frères qui sont des frères et sœurs pauvres qui sont en Judée, il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dans le Nouveau Testament, la générosité s'oppose à la soif de posséder. C'est tout le contraire de la soif de posséder, de s'amasser des trésors pour soi. Et nous sommes prêts, en tant que croyants, à donner généreusement nos biens matériels parce que nous avons trouvé un bien plus précieux encore. Le Seigneur Jésus s'est révélé à nous. Il nous a appelés à sa suite. Et par son don, le don qu'il a fait, lui, sa vie donnée en sacrifice sur la croix, il nous permet à nous, pécheurs, d'accéder au royaume de Dieu. Quelle richesse pour nous. Et l'apôtre Paul va dans ce sens, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Par son abaissement, Jésus, Dieu le Fils, le Seigneur de gloire, nous accorde dans sa grâce ce à quoi nous ne pouvons prétendre par nous-mêmes, à savoir la vie éternelle, en présence du Dieu vivant. Par sa pauvreté, il nous a enrichis. Si Jésus s'est montré si généreux à notre égard, eh bien, il me semble, notre attitude en tant que chrétien, à l'image de la sienne, doit être tout aussi généreuse envers ceux qui sont maintenant dans le besoin. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Hier, j'ai été marqué par le temps qu'il faisait. Il a plu quasiment toute la journée, du matin au soir et en grande quantité. Et dans certaines parties du monde, il pleut pratiquement tout le temps, ou en tout cas très souvent. Est-ce que pour autant, cela paralyse l'activité du pays ? Est-ce que les gens sont arrêtés parce qu'il pleut ? Non, il me semble que même dans les pays où il pleut le plus, eh bien, ils continuent leur activité. Et dans les versets qui suivent, eh bien, le Qohélète nous amène à réfléchir à cette question. Allons-nous entreprendre si toutes les conditions ne sont pas optimales ? Est-ce que nous allons nous lancer, même si toutes les conditions ne sont pas optimales ? Allons-nous prendre le risque, finalement ? Et c'est pourquoi nous avons ces versets 3 et 4. « Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Et celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Autrement dit, et nous avons tous fait cette expérience, en observant les nuages, le ciel qui s'assombrit, nous sommes capables, dans une certaine mesure, de prévoir la pluie. Et selon notre activité, selon ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous allons faire, nous allons adopter deux attitudes. Soit nous continuons de travailler, qu'il vente ou qu'il pleuve, soit nous décidons de reporter ce que nous projetions de faire en attendant un temps meilleur. Et dans le même ordre d'idée, ici, quand il est question de chute d'arbres, eh bien, cela peut aussi désigner au sens figuré des événements accidentels, inattendus, des imprévus dans la vie. Et vous savez bien que le quotidien est rempli d'imprévus, n'est-ce pas ? Allons-nous prendre le risque de nous lancer quand même, malgré ces circonstances où on n'est pas sûr ? Le Qohélète nous présente au verset 4 le profil de ceux qui ne prennent pas de risques. Ils regardent le vent, ils regardent les nuages, ils se disent « c'est pas le bon jour ». Le Qohélète nous présente ici le profil de ceux qui ne prennent pas de risques parce que toutes les conditions ne leur sont pas favorables. Et résultat, ils ne sèment ni ne moissonnent. Au contraire, il s'agit de se lancer avec persévérance. Et c'est ainsi que le Qohélète nous exhorte au verset 6. Regardez avec moi le verset 6. « Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela ? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons ?» À travers cette image agricole, nous comprenons qu'il nous faut parfois envisager plusieurs tentatives, plusieurs essais, plusieurs méthodes, parce que nous ne connaissons pas d'avance le résultat. Nous ne savons pas ce qui produira du fruit et ce qui n'en produira pas. Et quand il s'agit de projets dont nous ne pouvons pas connaître à l'avance ce qui réussira ou pas, je pense notamment à l'évangélisation. Quand nous semons la parole de Dieu, quand nous annonçons l'Évangile, nous ne savons pas d'avance si cela portera du fruit. Chez certains, nous verrons un enthousiasme qui disparaîtra rapidement. Chez d'autres, nous verrons que cela ne s'enracine pas dans leur vie. Les soucis, les distractions du monde envahissent leur cœur. Et chez d'autres encore, dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, sa parole fait son effet. En tout cas, un effet positif. Ceux-ci entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et se convertissent. Et dans ce que nous pouvons entreprendre, nous ne savons pas vraiment ce qui fonctionnera. Mais Dieu le sait et il fait son œuvre. Voici comment cela s'est passé pour un certain Luke Short, qui a vécu au XVIIe siècle. Il avait 103 ans quand il s'est souvenu d'une prédication qu'il avait entendue autrefois. Et tout en ayant cette prédication en tête, en mémoire, c'est là, à ce moment-là, à 103 ans, qu'il demande à Dieu de pardonner ses péchés, en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus. Là, il s'est souvenu de cette prédication, à 103 ans, et il a demandé à Dieu pardon. Il a vécu encore 3 ans, cet homme. Et puis sur sa tombe, nous pouvons lire « Ici repose un enfant de la grâce âgé de 3 ans qui mourut naturellement à l'âge de 106 ans. » Mais en fait, je n'ai pas encore dit le plus incroyable dans cette histoire. Le plus incroyable, figurez-vous que ce sermon, Luke Short l'avait entendu 85 ans auparavant. 85 ans entre cette prédication et sa conversion. Notre Dieu est patient. Et ce n'est qu'un exemple qui peut nous encourager à continuer à semer l'Évangile, là où nous nous trouvons, chacun dans son contexte de vie. Mais aussi lorsque nous envisageons en tant qu'Église certains projets par rapport au quartier de la Pie, par rapport à la ville de Saint-Maur. Réécoutons ce que dit le Qohélète avec l'évangélisation en tête. « Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons ?» Et il me semble qu'en matière d'évangélisation, nous sommes précisément dans ce cas-là. Nous ne savons pas ce qui peut réussir ou pas. Mais il s'agit d'entreprendre, de se lancer. Dans cette première partie, nous avons vu que le Qohélète exhorte à la générosité. Et il exhorte aussi en particulier ici à l'action, sans forcément attendre toutes les conditions favorables. Il s'agit dans une certaine mesure de prendre des risques. Et en même temps, eh bien d'accepter que nous ne savons pas tout. Nous venons de le voir. Dans ce que nous entreprenons, nous ne savons pas ce qui réussira ou non. Et le Qohélète l'avait déjà dit au verset 2, d'être généreux parce que tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc dès maintenant, tant que tu en as l'occasion, sois généreux parce que tu ne sais pas quel malheur arrivera. Maintenant, arrêtons-nous sur le verset 5, que je n'ai pas lu encore, enfin, je ne suis pas revenu là-dessus. Regardez le verset 5. « Tu ne sais pas, » ça commence aussi de la même manière, « tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. » Même si aujourd'hui, à notre époque, nous pouvons étudier les mouvements du vent, et savoir à quelle semaine se forment les os d'un embryon. Il n'en reste pas moins qu'une part de mystère demeure encore. Et combien plus lorsque nous pensons à l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui échappe à notre savoir. Le Qohélète présente Dieu comme l'auteur de tout ce qui existe. Il est l'auteur de tout ce qui existe. Dieu est le maître de toute la création. Il est souverain, le souverain qui maîtrise toutes les circonstances, les bonnes comme les mauvaises. Il maîtrise tout. Rien n'échappe à sa souveraineté absolue. Et le mystère, pour nous, réside dans le fait que nous ne savons pas tout ce que Dieu fait, ni pourquoi il le fait. C'est là que se trouve le mystère. C'est que nous ne savons pas tout ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. Et si je remets ce verset 5 dans son contexte, si je le relis notamment à l'exhortation de se lancer, d'entreprendre, d'agir, eh bien cela signifie que le Qohélète est en train de nous encourager à entreprendre sans toujours tout comprendre de l'œuvre de Dieu. Il plaît à notre Dieu, auteur de tout ce qui existe, de ne pas tout nous dévoiler. Nous ne savons pas ce qu'il permettra que nous réussissions dans nos projets. Et puisque nous n'avons de toute façon pas toutes les informations, ni toutes les garanties, eh bien, n'attendons pas pour nous lancer. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à tout faire pour la gloire de Dieu. Et si ton projet vise ce but pour la gloire de Dieu, non seulement c'est honorable, Mais cela vaut peut-être la peine que tu songes à le concrétiser. Parfois, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu avant de nous être engagés. Tant que vous n'avez pas fait ce pas, vous pouvez rester dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Mais parfois, après s'être engagé, eh bien, vous vous rendez compte que vous étiez dans cette volonté de Dieu. Pour ma part, comment aurais-je pu savoir que Dieu me voulait dans le ministère pastoral si je ne m'étais pas lancé dans une année de stage pastoral ? Sans expérimenter le terrain, comment aurais-je pu être certain ? Et ce n'est qu'une fois que j'étais déjà engagé que j'ai eu confirmation. Je crois que ce qui est dramatique dans la vie d'un croyant, c'est d'être paralysé dans son action, paralysé dans son initiative, paralysé dans sa décision parce qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu à ce sujet. Ça, c'est dramatique. Parce que du coup, il ne fait rien. Il ne prend pas d'initiative. Dieu nous laisse parfois dans cette ignorance et il faut savoir que c'est ainsi. Nous ne comprenons pas tout le temps ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Mais nous ne doutons pas qu'il a la maîtrise de tout. Combien de fois j'ai remarqué que Dieu m'avait amené à faire plusieurs essais. J'ai passé 3 fois le CAPES. J'ai passé 4 fois le permis. Et si j'avais abandonné, je n'aurais eu ni l'un ni l'autre. Autre exemple, à chaque fois que j'ai recherché un logement, il a fallu appeler ici, visiter là-bas, éplucher plusieurs annonces avant d'obtenir l'appartement qu'il me fallait. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné du premier coup ce que je recherchais ? Est-ce que j'avais manqué de foi à ce moment-là ? Eh bien, je ne pense pas. Quand le Qohélète nous dit de semer sans relâche, il dit aussi que nous ne savons pas ce qui réussira. S'y prendre à plusieurs fois, pour le dire encore autrement, fait partie de notre expérience dans cette vie. Nous ne pouvons pas échapper au fait de devoir essayer. Nous ne pouvons pas être toujours sûrs de tout. Et surtout dans la mesure où nous n'avons pas la maîtrise de tout. Et je comprends avec le recul, par les expériences que je viens de vous partager, que Dieu ne nous fait pas échapper à notre condition humaine, qui consiste précisément à ne pas tout savoir. Nous devons faire ces expériences-là pour nous rendre compte qu'effectivement, nous dépendons de Dieu. En étant sous le soleil, nous apprenons à assumer cette condition, en ayant confiance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est valable pour nos projets de vie comme pour les projets de plus grande envergure, tels que l'évangélisation. Dans tout cela, nous dépendons de la grâce de Dieu. Pensez encore une fois à ces expériences par lesquelles vous avez dû passer. Vous avez fait plusieurs tentatives. Vous avez connu plusieurs échecs. Mais dans tout cela, il n'y a pas de souci finalement. Ça fait partie de la condition humaine ici-bas. Et je le dis d'autant plus peut-être dans une culture où on met parfois la pression sur une réussite du premier coup. N'ayez pas une telle pression. Dans la vie, vous connaîtrez des échecs. Mais ça fait partie de la condition humaine. Ça fait partie de la vie sous le soleil. Ça fait partie d'une vie où Dieu, lui, a contrôle sur tout. Nous avons vu jusque-là que le Qohélète a mis l'accent sur le passage à l'action. Nous avons vu également qu'il souligne plusieurs fois que nous ignorons l'avenir ou ce que Dieu fait. Et pour autant, il faut quand même se lancer. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'activité. Il n'y a pas que des projets. Il n'y a pas que le travail difficile. Et l'insistance dans l'ensemble du livre, cette fois-ci, porte sur un refrain que nous avons déjà entendu plusieurs fois. L'appel à profiter de la vie. L'appel à se réjouir. Versets 7 et 8. La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Tout le monde s'accorde pour dire que la lumière est bienfaisante, qu'une journée ensoleillée est toujours plus agréable qu'un jour de pluie. Si nous voyons le soleil, eh bien cela signifie aussi, dans le contexte du livre de l'Ecclésiaste, cela signifie aussi que nous sommes encore vivants. Tant que nous voyons le soleil, c'est que nous sommes encore vivants. Et ici, eh bien, dans ce verset 7, quand l'Ecclésiaste dit « la lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil », il est en train de dire, en fait, il est agréable de vivre. La vie vaut la peine d'être vécue. Vivre est un bienfait de la part de Dieu. Et si cette vie dure des années, le Qohélète conseille sagement de vivre toutes ces années dans la joie, de profiter des petits plaisirs qui s'offrent à nous. Qu'il est agréable en été, après une journée bien chaude, de s'asseoir en terrasse, de profiter de l'air frais du soir, ou bien de manger une bonne glace artisanale. Ah, vous connaissez ce plaisir. Qu'il est agréable, après une randonnée qui nous a fait suer, de nous baigner pour détendre nos muscles bien sollicités. Quoi de mieux certains soirs que de les passer en famille ou entre amis autour d'un bon film ou de jeux de société. Il est tout aussi agréable, après la journée du vendredi, de se dire entre collègues que nous allons boire un verre pour bien entamer notre week-end. Et quand l'occasion se présente de se réjouir, de fêter un anniversaire, la réussite à un examen ou toute autre bonne nouvelle, il faut la saisir parce que Dieu donne de telles occasions. Si nous avons des raisons parfois de faire la fête, c'est parce que Dieu nous donne ces raisons-là. Mais le Qohélète ne tarde pas non plus à nous rappeler que dans la vie, il n'y a pas que de bons moments. Les jours sombres, assombris par la perspective de la mort, sont devant nous. Le Qohélète ne nous dit pas de profiter des plaisirs de la vie pour oublier que la vie est parfois dure. Mais il est en train de nous dire de bien profiter au milieu de cette vie qui a son lot de jours sombres. Je ne fais pas la fête pour oublier que la vie est difficile. Je fais la fête au milieu de cette vie qui est difficile. Je relis le verset 8, encore une fois. « Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres. » Nous ne nous livrons pas à la joie pour oublier. Ce n'est pas encore, en tout cas, la perspective biblique. Le Qohélète n'a cessé de nous placer en face de la réalité telle qu'elle est. Cette réalité bien dérisoire. Et malgré la fragilité, la déception, la frustration, le fait que tout peut partir en fumée, Dieu, dans sa grâce immense, nous donne encore de nous réjouir tout au long de notre vie. Nous donne bien des occasions de nous réjouir, de nous livrer à la joie. Et je dis bien dans sa grâce, parce que nous sommes pécheurs. Mais quand même, malgré tout, il nous donne des occasions de nous réjouir. Et en tant que croyants, nous savons à qui nous devons tous ces bienfaits. 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Je voudrais juste souligner ici un élément. Dieu est bon envers tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non croyants. Dieu livre les hommes à la joie, et tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non croyants. Mais s'il y a bien une différence avec nos contemporains qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est précisément le fait que nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous savons d'où cela vient. Nous savons pourquoi nous sommes dans la joie, pourquoi nous avons des raisons de nous réjouir. Mais je voulais préciser cela parce que parfois, nous pouvons estimer que les non-croyants sont plus malheureux que nous. Mais c'est faux. Ils profitent de la vie, parfois même plus que nous. Mais la différence, c'est que nous connaissons le Seigneur. La différence, c'est que nous savons qui est le donateur, le généreux donateur. Et pourquoi nous avons des raisons d'en profiter, puisqu'il nous le donne. Le Qohélète nous parle de la vie sous le soleil, et il ne parle pas de ce qui se passe au-delà de cette vie. Mais nous n'oublions pas qu'en Jésus-Christ, notre espérance porte sur une nouvelle création, qui ne sera plus soumise à la vanité, qui ne sera plus soumise à la futilité, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous attendons ce jour où le Seigneur renouvellera toutes choses pour sa gloire et pour le bonheur de son peuple. Et en attendant ce jour, et précisément nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas quand, en attendant ce jour, nous sommes exhortés ce matin à nous lancer. Sans tout savoir, sans attendre toutes les conditions réunies, mais avec foi en celui qui est l'auteur de tout ce qui existe. Nous sommes exhortés aussi à nous réjouir pendant toutes les années de notre vie, tout en sachant que nous ne serons pas épargnés par des jours plus sombres. Mais la vie, bien que brève, bien que éphémère et fragile, vaut la peine d'être vécue. C'est le message de l'Ecclésiaste. Et encore plus parce que de Christ, nous avons reçu une vie en abondance. La vie que nous avons reçue est un don. Et je parle de la vie nouvelle. La vie que nous avons reçue est un don, une grâce imméritée. Elle commence maintenant déjà. Notre responsabilité, celle que Dieu nous appelle à exercer, est d'entreprendre pour sa gloire, avec les biens qu'il nous a confiés, et de nous réjouir avec reconnaissance de tout ce qu'il nous donne. Voilà notre responsabilité. Bénissons Dieu ensemble dans la prière. Nous l'admettons, Seigneur, nous ne comprenons pas tout. Nous ne connaissons pas ton œuvre dans son entièreté. Nous ne savons pas non plus quelles sont tes intentions. Mais nous savons que tu es bon. Et nous savons que tu es souverain sur toute chose, que rien n'échappe à ton contrôle, que tout ce qui se passe sous le soleil est sous ton contrôle, Seigneur. Et avec cette certitude-là, eh bien, nous voulons écouter encore les exhortations du Qohélète et nous rendre compte, Seigneur, que tu nous appelles à prendre des initiatives, à entreprendre, à nous lancer dans des projets, et tout particulièrement lorsque nous ne savons pas ce qui va réussir ou pas. Mais en tout cas, nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu as la maîtrise de tout, alors nous pouvons nous lancer. Nous pouvons nous lancer en sachant que parfois dans notre expérience, il s'agit de faire plusieurs essais. Oui, Seigneur, tu permets à ce que nous ne sachions pas toujours quelle est ta volonté, mais tu nous demandes quand même d'être à l'action. Et tu nous demandes également d'être généreux, généreux envers celles et ceux qui sont dans le besoin, de pouvoir faire de nos biens une source de bénédiction pour les personnes qui en manqueraient, parce que nous ne savons pas quel malheur peut arriver sur cette terre. Et dans tout cela, Seigneur, et c'est une vraie grâce que nous recevons, tu nous appelles à nous réjouir dans cette vie, à profiter de la vie, profiter de toutes les occasions que tu nous accordes de pouvoir nous faire plaisir, de pouvoir passer du temps avec les personnes que nous aimons, de pouvoir tout simplement saisir ces occasions aussi, de pouvoir faire la fête. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu généreux qui nous donne de la joie aussi. Et nous voulons te remercier parce que nous avons aussi conscience et nous gardons cela en mémoire que tout n'est que fumée, que tout est touché par la fragilité, par ce qui est dérisoire. Mais qu'un jour, et c'est notre espérance, nous savons que nous vivrons dans une nouvelle création où rien ne sera dérisoire, où rien ne sera fragile, où rien ne sera fumé. Et cette espérance, nous l'avons grâce à Jésus-Christ, qui lui a tout accompli pour que cet avenir soit possible pour nous. Merci Seigneur pour cette perspective qui est peut-être pas si lointaine que cela. Et nous nous attendons à toi pour chaque jour. Oui, nous voulons dépendre de toi pour chaque jour, sans connaître, en acceptant de ne pas tout savoir, mais en te faisant confiance. Et c'est au nom de Jésus que nous te faisons cette prière. Amen.